En 2021, on fête les 100 ans de la radio,
les 40 ans de la libération des ondes
et le lancement de la radio numérique DAB+ en France.
Toutes vos radios s'unissent pour célébrer le média préféré des Français du 31 mai au 6 juin prochain.
Émissions spéciales, ateliers, concerts, live stream, journées portes ouvertes.
Découvrez tous les événements proches de chez vous sur le site fêtedelaradio.com et sur les réseaux sociaux.
Pour cette semaine particulière, au cours de laquelle nous célébrerons la radio, RPL vous propose une programmation particulière. Émissions spéciales, reportages, chroniques, témoignages. Et aujourd'hui, je vous emmène faire un peu d'histoire, mais pas n'importe laquelle, puisque nous allons parler de celle de la radio. Pour nous éclairer sur le sujet, je reçois aujourd'hui l'historien et conférencier Patrice Desdois. Bonjour Patrice.
Bonjour à vous, bonjour à vos auditeurs, bien évidemment.
Vous allez bien ?
Ah bah oui, parfaitement, du moment que je suis avec un micro devant moi.
Ça vous rappelle des souvenirs.
Oui.
Alors, je vous ai présenté brièvement. Je vous laisse peut-être le faire davantage à nos auditeurs.
Oui, j'ai travaillé 18 ans à Radio France. Je n'ai pas du tout participé aux radios amateurs, aux radios privées, même aux radios pirates de ma génération. J'y étais un peu invité de temps en temps parce que j'étais journaliste dans la musique rock, dans une revue qui s'appelait Best. Et de temps en temps, m'inviter pour parler d'un artiste ou d'un style musical. Et j'ai découvert la radio comme ça, quoi, en invité. Puis il y avait une radio dans la ville où j'habitais à l'époque, à Melun, il y avait une radio, c'est les toutes premières radios locales dont on parlera un peu plus tard, de Radio France. Et en 81, donc, qui ont ouvert, il y avait trois radios. Il y avait Lille au niveau d'une région, Melun au niveau d'une ville, et puis Laval dans la Mayenne au niveau d'un département. Et quand la radio a été créée à Melun, tout de suite, ça m'a passionné. Et j'ai même enregistré les deux premières heures de la radio à Melun. Quand, ouais, j'étais vraiment déjà un peu piqué par la radio. Et puis un beau jour, j'ai frappé à la porte en voulant proposer une émission de rock. Et puis là, on m'a dit non, rock, c'est Radio France, c'est pas trop le truc. Donc on m'a envoyé chez moi, plutôt au mois de juin, puis au mois de septembre, une animatrice ou un animateur n'est pas venu au dernier moment. Et là, ils m'ont rappelé, en disant, bah, t'as des connaissances musicales, t'as une voix. Responsable des programmes à l'époque, en plus, c'était un gars que j'avais connu au lycée, on ne s'entendait pas du tout. T'es pas de la même bande. Donc, je suis rentré par la petite porte, donc, à Radio France. À travailler que le week-end dans une première année, parce que j'étais animateur pendant 3 ans. Et puis très vite, je suis passé, j'avais envie de m'occuper des programmes, une place s'est libérée, donc je suis devenu responsable des programmes à Melun. Et puis je voulais venir vivre à Lille, et en 2000, la place s'est libérée, j'ai enfin pu arriver en février 2000 à ce qui était encore Fréquence Nord, parce que j'ai connu le changement, moi, Fréquence Nord, France Bleu Nord. Hein. Donc voilà, j'ai travaillé pendant 6 ans à France Bleu Nord. Et après, j'ai un autre parcours, mais ça c'est une autre histoire, c'était plus de la radio.
Et alors votre intérêt pour l'histoire de la radio, justement, quand est-ce que c'est venu ?
C'est venu d'une anecdote, parce que la radio, on ne se l'imagine pas, mais la radio a 100 ans. Hein. Donc c'est pas 2 siècles, 3 siècles, 4 siècles. Hein. Alors vous qui êtes toute jeune, là j'ai une anecdote que je vais vous raconter, ça va vous faire halluciner. Mais mon père me racontait toujours, mon père était né en 1911, et il me racontait, il habitait dans le bocage normand, au bout du monde, dans un petit village où il y avait 300 habitants. Et il me racontait qu'un beau jour, il avait, d'après lui, 14-15 ans, après la messe, le curé invite tout le village à aller dans la grange à côté de l'église. Et là, il avait une radio. Alors, personne ne connaissait la radio, bien évidemment. Et il met une table sur le milieu de la pièce. Tout le monde se met en cercle autour. Il dit, je sais pas, il y avait 200 personnes. Il dit, un monde fou. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il met la radio, il explique. Et puis, il tourne un bouton. Et là, il y a de la musique. Et là, les gens, mais il y a des gens, mon père m'a dit, il y a des gens qui ont pris peur, quoi. Des gens qui sont barrés, puis il y en a qui sont venus, après il y a eu de la voix. Le son était, bon, un son de l'époque, bien évidemment, hein, c'est pas le son de RPL. Mais il y a des gens qui sont allés passer la main sous la table, parce qu'il y a à la foire du trône, dans les foires, et des fois il y a la femme sans corps, quoi. Il y a juste une tête posée sur une table. par des jeux de glace. Là, ils sont allés vérifier s'il n'y avait pas, c'est pas le même principe, quoi, s'il n'y avait pas quelqu'un dessous qui parlait, quoi. Et là, je trouvais cette anecdote extraordinaire, quoi, de dire, mon père a vu naître la radio, quoi. Et j'ai eu, bien avant de me consacrer aux conférences, ça c'est depuis que je suis retraité, depuis 2012, avant j'avais quand même créé une conférence sur l'histoire de la radio. J'ai une histoire du rock, une histoire de la radio. Et ben, à l'époque, on faisait des recherches, c'était difficile de faire des recherches, il n'y avait pas Internet, bien sûr. Donc il fallait dans les archives feuilleter des bouquins, des revues, c'était d'une complexité. J'avais quand même une conférence, mais qui n'était pas très riche quoi, en détails. Et puis ben, je me suis remis à travailler ma conférence en arrivant à Lille. Internet était arrivé. Et là, ben, c'est extraordinaire. On découvre des informations, j'en découvre encore de temps en temps, comme ça par hasard. Internet m'a vraiment décidé à travailler, à écrire d'autres conférences d'ailleurs, mais... Et donc, mais la passion pour la radio, j'ai vécu, moi, ici, 6 années à Lille, extraordinaire, parce que, d'abord, j'avais une très belle équipe, on a eu de très bons résultats pendant cette période-là, et on a fait des choses vraiment, vraiment hors du commun, quoi, pour Radio France. On avait vraiment une belle politique locale, avec des artistes qui passaient toutes les heures, des artistes locaux, et puis d'autres choses, quoi. Mais puis j'avais une équipe qui, pour la plupart, est... Ils sont encore là. Il y a même une qui est partie à la retraite. Peut-être qu'ils ne sont pas tous jeunes. Hein. Vous êtes plus jeune à RPL qu'à la France Bleu Nord. Hein. Et deux, il y en a deux de parties même à la retraite. Et puis pour aussi pour l'anecdote, c'est que je suis venu dans cette radio comme directeur des programmes, responsable de l'antenne. Et ça m'a rappelé que dans les années 80, j'avais été invité 5 fois. Par l'émission de rock, à l'époque il y avait une émission rock tous les soirs de 9h à minuit, par un animateur qui s'appelait PFD, Pierre-François Debieuvre, et il m'avait invité 5 fois à venir parler de différents thèmes, quoi. Et si j'avais imaginé à l'époque revenir un jour comme responsable de l'antenne, voilà, ben, et puis je suis piqué, aujourd'hui je n'y travaille plus, mais j'écoute encore la radio, des fois je fais « Oh là là, mais pourquoi ils ont dit ça ?»
Et alors vous l'avez dit, la radio ça fait 100 ans, on ne l'imagine pas toujours d'ailleurs. Pourquoi on retient cette date d'il y a 100 ans? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était vraiment les débuts de la radio en France déjà?
C'est la date de la première émission de radio. Première émission de radio, avant il y a eu la découverte des ondes avec d'abord des ondes électromagnétiques par Heinz, et après il y a eu des gens comme Marconi, Popov, etc., qui ont permis d'émettre une voix à distance, hein, sur des distances courtes. Au début, la première fois, c'était de la maison au fond du jardin, mais ça avançait par petits pas. Hein. Les débuts des ondes, c'est 1880, hein, avec Heinz, donc ça progressait quand même. Puis il y a eu des découvertes importantes. Il y avait eu l'électricité avant, hein. Il y avait eu l'invention de la lumière, l'invention de l'utilisation de l'électricité, la révolution industrielle, quoi. Et puis là arrive la radio, et puis la première émission de radio réellement émise avec un programme en annonçant qu'un concert allait être diffusé, c'était pas très grand public. D'abord, il y avait qu'une 20aine de postes récepteurs en face de l'antenne, et qui étaient quasiment tous à la cour d'Angleterre, parce que c'est une émission qui a été émise à partir du château de Laeken, qui est à côté de Bruxelles, où ont été installés les tout premiers studios de radio. Et là, il y a une émission donc, qui est partie en direction de Londres. Je pense que la cour d'Angleterre a dû écouter la radio, et puis la cour belge, quoi, donc ce n'était pas du tout grand public. Et donc, 1921, c'est la première émission de radio. Hein, où un concert a été diffusé, et il y a eu quelques paroles, ça durait 2 heures. C'est donc là le grand début, quoi.
Et alors ensuite, quelles ont été les grandes dates, les grandes étapes de l'histoire de la radio?
Les grandes étapes, c'était la création des radios d'abord parisiennes, comme Radio Tour Eiffel, qui était une radio de service public, radio de détail. Il y a eu Radio Tour Eiffel. Après, là, il y a eu la première, ça c'est 1925, après ça, Après, c'est parti à une vitesse folle, de 1921. Ouais.
C'était lancé.
Ah, c'était lancé, et là, il y avait un équipement extraordinaire. Donc, il y a eu des centaines de postes de radio de vendus en une année. Et c'était encore pas, bien sûr, l'équipement pour tout le monde. Hein. Puis d'abord, ça coûtait une fortune. Un poste de radio coûtait environ 2 mois de salaire pour un ouvrier. Donc c'était réservé à une élite sociale. Et il y a eu après la première radio privée, qui était Radio La, la première radio en France. Et puis il y avait donc toujours cette rivalité entre les radios privées et puis les radios de service public, hein, comme aujourd'hui. Et l'État a décidé d'ouvrir des radios locales. Donc, il y a eu à partir de 1927, mais ça, on en parlera encore une fois plus tard, il y a eu donc la création de radios locales, enfin, qui étaient par le biais des PTT. Et donc, c'était des radios PTT, Radio PTT Marseille, Radio PTT Bordeaux, etc. Et puis, le milieu de la radio a continué à progresser. Là, je ne vais pas rentrer trop dans le détail et être trop embêtant pour les auditeurs. Mais c'est dans ces années avant-guerre que sont nées les radios, comme Radio Télé Luxembourg. Europe 1, c'est plus tard. Mais jusqu'à la guerre, il y a beaucoup de radios qui se sont créées à travers toute la France. Toujours avec cette opposition radio privée et radio service public, quoi, comme aujourd'hui. Et puis, la guerre est arrivée. Les Allemands ont mis la main sur les radios. Hein, il y avait bien sûr Radio Paris, qui était une radio de propagande nazie. Et avec des anecdotes. Alors, bien sûr, l'anecdote de la radio Londres, qui était une radio de réseau de résistants français, avec notamment Charles de Gaulle et tout un certain nombre de Français qui étaient en Angleterre, qui mettaient des messages avec ce fameux indicatif, le boum, 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 ici Londres, avec des messages surréalistes. La poupée avait 3 jambes. Puis la guerre s'est terminée, et là est apparu une expérience de radio moderne. Et c'était vraiment, parce qu'avant, la radio, c'est un petit peu n'importe quoi. Il a fallu attendre quand même 1946 avec la création du studio d'essai et du club d'essai qui était dans le quartier latin à Paris pour que des règles soient établies au niveau de la radio. Par exemple, les journaux d'information à heure fixe, c'est le studio d'essai. Avant, on faisait un journal quand il y avait de l'info, quoi. Donc et puis il y a toute une table de structures comme ça qui ont été créées. C'était aussi les premiers enregistrements de ce qu'on appelait des feuilletons ou des séries. Et il y avait réuni dans une maison, un immeuble de Paris, avec une cour et avec un arc dans la cour important, parce que tout le monde raconte qu'il y avait un singe qui balançait des cailloux sur tous les gens qui arrivaient. Et quand ils tournaient des séries, quand ils enregistraient des séries dans la cour, le singe menait une vie épouvantable. Et à participer à ce club d'essai, toute l'élite des surréalistes français, c'est-à-dire les Queneau, les Soupeau, les Dubillard, Vian, Schaeffer, qui après s'est orienté vers la musique contemporaine, et puis Jean Chouquet, qui a été après, pendant 13 ans, directeur des programmes de France Inter. Et ma carrière Radio France, je l'ai eue, je l'avoue, là, c'est une petite parenthèse, grâce à Jean Chouquet, quoi.
D'accord.
Ouais, on était devenus très copains, il m'a beaucoup aidé, même à venir à Lille. Merci Jean, t'es plus là, mais...
Il nous entend,
voilà. Donc la guerre, et puis après la guerre, alors là, ça a été toujours en grandes ondes, ou en ondes courtes, il n'y avait pas du tout la FM à l'époque, ça a été une période faste où les gens avaient forcément après la guerre envie plutôt de s'amuser. Et une belle période avec plein de radios modernes qui se sont créées. Et on recevait les radios donc françaises. Il y avait à l'époque Paris Inter qui est devenu France Inter. Il y avait Radio Luxembourg. Il y avait dans le sud les radios Monte Carlo qui avaient été créées. Et puis Sud Radio dans les Pyrénées. Et on a vécu au rythme des grandes ondes pendant de très longues années. Moi, ma jeunesse dans les années 60, 70, c'était les grandes ondes. Hein. On écoutait, il n'y avait pas beaucoup de radio. Dans le Nord, il y en avait une supplémentaire parce qu'ici, on captait la BBC. On captait le BBC, puis on captait aussi les fameuses radios offshore, c'est-à-dire les radios à bord de bateau. Ouais, il y avait Radio London, Radio City, et puis il y avait des radios qui étaient écoutées par beaucoup, beaucoup de monde ici sur l'île. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, musicalement, on a toujours été assez proche de l'Angleterre dans la musique rock et autres, parce qu'il y avait des influences anglaises, quoi.
Et justement, la musique, quand est-ce qu'elle est arrivée dans la radio? Dès le départ, la musique avait une place importante dans le monde de la radio?
Oui. Dès le départ, il y avait de la musique. Il y avait même des concerts de diffusés, des concerts qui étaient en direct hein, de la radio. Dans les années 30, il y avait des concerts qui étaient joués au Théâtre Sébastopol, avec l'ancêtre de l'ONL, et il y avait une diffusion en direct du concert. Mais puis après, il y avait une programmation, oui, de variété, avec les chanteurs de l'époque, dans les années 50-60. À Lille, il y avait un chanteur qui s'appelait Bertal, qui était l'idole des femmes, parce qu'il était très beau. Et on a toujours eu de la musique, hein, mais toujours beaucoup de musique.
Donc on en était aux radios pirates. Ouais. Après, quelle a été la grande étape?
Ah ben, la grande étape, c'est l'arrivée de la FM. Ouais. La FM, on était quasiment les derniers en France à ne pas avoir la FM. La FM existait en Angleterre, en Allemagne, en Italie, mais en France, on ne l'avait pas. Et il a fallu attendre donc 81 pour que la radio soit officialisée et autorisée. Mais il y a eu une période... une des plus anciennes radios FM de France, sans doute même la plus ancienne radio, c'est pas RPL, c'est pas France Bleu qui était ma radio, c'est une radio que vous connaissez forcément qui s'appelle ici Radio Campus.
Oui.
Et Radio Campus, parce qu'elle était justement à destination des étudiants et créée par des étudiants, l'État a autorisé. Puis ça va être test aussi sur l'utilisation du réseau FM, hein, qui a été tout à fait autre chose, hein, la stéréo. Et c'est en 1971 que Radio Campus a été créé. Et pendant très longtemps, Radio Campus était la seule radio de modulation de fréquence FM de France, quoi. Et il a fallu attendre les années 78, 79, 80, pour que les radios se créent dans le Nord, les premières radios pirates. Et là, les radios pirates les plus célèbres, ça a été... Il y a une radio qui existe encore, qui est à Cassel, qui s'appelle Radio Eulenspiegel, qui est des programmes en flamand, mais des programmes en français. Hein. Et Eulenspiegel faisait partie des 5-6 radios qui, à l'époque, il y avait aussi... il y avait Radio Quinquin. Mais Radio Quinquin, c'est une radio très politique et... est très social dans toutes ses démarches. Il y avait quand même une radio dans l'est de la France qui s'appelait Radio Verte, qui est une radio écolo, très importante également. Et sur l'île, il y avait Radio 80. Radio 80, avec des dirigeants de l'époque qu'on retrouve maintenant dans des radios privées lilloises. Et même le grand patron, le producteur de Véron Productions, qui organise tous ces spectacles. Guy Marseillera a fait partie de cette radio pirate qui était de temps en temps à la Maison de la Nature, qui était à côté du Muséum d'Histoire Naturelle. Et puis de temps en temps, quand ils se faisaient saisir, eh bien, ils émettaient d'une camionnette. C'est comme quoi, c'est un truc de fou, quoi. À l'époque, ils mettaient le matériel dans une camionnette, ils montaient un mât, puis ils émettaient sur une distance limitée. Et Guy, ils ont saisi plusieurs fois le matériel, mais c'est pas une légende, parce qu'il y a un étudiant qui a écrit une thèse sur la radio locale sur l'île, et qui a noté tous les jours où il a été embarqué au commissariat pour y passer une nuit, et il a piqué le matériel, et puis Et puis ben, après, il fallait le racheter. Et le matériel, bon, c'était assez rudimentaire, hein, mais le matériel coûtait environ maintenant 5000 euros quand même, quoi. Voilà, c'était le début de la radio. Puis après, 81 est arrivé, avec les créations des radios locales de Radio France et l'autorisation de réseaux privés nationaux. C'est la naissance d'Énergie, la naissance de La Voix du Lézard, qui allait devenir après Skyrock. C'était la naissance de Radio Gilda, enfin il y avait des radios qui ont changé de nom et qui existent encore aujourd'hui, qui sont devenues au fil du temps. Il y avait Radio Montmartre pour les seniors. Hein. Je ne sais même plus comment elle s'appelle maintenant, cette radio, elle existait. Il y avait Radio Libertaire à Paris, qui était une radio très importante et qui a relayé tous les mouvements sociaux, un peu comme la Radio Verte dans l'Est de la France. Et puis, bon, les réseaux, les Radio France avec des programmes qui étaient faits localement à destination de la région, comme vous le faites vous aujourd'hui, avec des reportages comme vous le faites encore à cet instant. Et il y a eu un boom extraordinaire. Les gens ont vraiment découvert la radio FM avec une qualité de son qui est bien meilleure que les grandes ondes, bien sûr. La société aussi était, surtout changée dans les années 68, mais dans les années 70, fin 70, 80, c'était encore une année où beaucoup de choses changeaient. Quoi. Mmh. Aujourd'hui, dans des années malheureusement un peu pessimistes, hein, où on, je ne veux pas, sauf sur RPL, mais quand on écoute un journal d'information, on peut se suicider. Quoi. C'est-à-dire qu'ils cherchent où ça va mal. Quoi. C'est extraordinaire. Quoi. Mais à l'époque, c'était pas ça. On avait des émissions, il y avait le top 50, qui était, qui était un grand rendez-vous. Et puis il y avait tout plein de hit parades, chaque radio avait son hit parade. Et il y avait vraiment un boom de la radio. Et la télévision a été un peu plus longue à démarrer. Et après, quand la télévision est arrivée, alors aussi avec forcément toutes ces chaînes. Moi, à l'époque, j'ai connu la télévision où il y avait une chaîne en noir et blanc. Et puis trois stations de radio, quoi. Pas d'ordinateur, pas de téléphone portable. Donc il y a eu ça, puis... Et puis il y a eu aussi l'apparition, mais beaucoup plus tard, de la radio numérique. Et radio numérique, là, qui a encore une fois du mal à décoller, alors que ça fait 30 ans qu'elle est en Angleterre, quoi. Et la radio numérique a cet avantage de pouvoir écouter des programmes très divers en Angleterre. Vous branchez en numérique sur la BBC, vous écoutez une chaîne de jazz, une chaîne de musique classique baroque, une chaîne de musique contemporaine, une chaîne de chansons des années 80. Alors, bien sûr, maintenant, c'est remplacé par Internet. Ça, vous le savez, hein. Ben oui, mais... Et tant que l'Internet n'a pas eu une place importante comme aujourd'hui, surtout Internet et puis toutes les, comment dirais-je, toutes les stations, les radios, comment on appelle ça, les radios...
Web radio.
Oui, les web radios. Ben, il y a une belle période dans les années 80-90, quoi. Mais 2000, c'était vachement bien aussi, les 6 premières années où j'étais encore à France Bleu, c'était vraiment bien, quoi. Vous étiez mon adversaire à l'époque.
J'y étais pas encore, ça va.
J'aurais pas dit bonjour, hein. Je vous croisais.
Et alors, l'histoire des radios associatives, quand est-ce que ça a commencé vraiment à se développer? Est-ce que c'est typique à la France, ce système associatif dans la radio?
Non, ça a été dans chaque pays qui a découvert la FM. Dans tous ces pays, il y a eu des radios associatives. Hein. Il y a encore des radios associatives en Italie, comme nous en Italie, en Belgique, en Allemagne, en Suède. Et la radio associative est arrivée à partir du moment, beaucoup en pirate. Il y avait plein de toutes petites radios, même moi j'habitais à l'époque en Seine-et-Marne, à Melun. Il y avait donc Radio France qui s'appelait Melun FM, la radio de service public, qui avait été créée en 1980, en même temps que Fréquence Nord. Mais il y avait des radios, Radio Évasion, Radio Seine-et-Marne, Radio FM 77, il y a plein de petites radios. Et là, c'était aussi une aventure extraordinaire parce que Il y avait des radios, je me rappelle d'une radio qui s'appelait Radio Corsair, où j'avais été invité pour parler de rock'n'roll. À l'époque, je ne travaillais encore pas à la radio. Et c'était dans une ferme briarde, en plein milieu des champs. Et là, il y avait un pigeonnier, mais très haut. Donc, il fallait monter une échelle, une échelle qui devait faire, je crois, 15 mètres de haut. Et puis là, on poussait une trappe, et on rentrait dans le studio. Alors, c'était dans l'ancien pigeonnier, bien sûr, il n'y avait plus de pigeons. Et là, c'était un équipement rudimentaire, quoi. C'est extraordinaire. Ah ouais, ouais, ouais. Je me rappelle, j'avais une histoire de la radio que je faisais, que j'avais vendue sur quelques radios. Et même à l'époque, sur la voie du lézard, future Skyrock. Mais j'étais allé faire une vendue. Vendue, ça ne se vendait pas cher. Hein. Ils me payaient les ronds, c'est le voyage. Des fois, ils me payaient une bière ou deux. Et j'étais allé dans une radio éphémère du côté de la porte de Saint-Ouen, par là-bas. Et c'était ils partageaient leur antenne avec Radio Beurre, moitié-moitié, eux ils faisaient le soir. Et ils m'avaient invité donc à aller sur 5 jours parler de l'histoire de la radio. C'était un format sur 5 jours, 5 fois 2 heures. Premier jour, ils étaient là, avec une ambiance malheureuse, de débauche, de. Ça fumait, ça buvait, c'était une horreur! Et moi, j'étais vachement sage. Et puis, le dernier soir, il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque, le dernier soir, il y a quelqu'un du bâtiment à côté qui vient me voir, qui me donne les clés. Il me dit, ils ont allumé le matériel, je vous donne les clés pour y rentrer, et je pense que vous allez savoir vous débrouiller avec le matériel, parce qu'ils ne peuvent pas être là. Ils se sont retrouvés tout seuls dans la radio. À devoir. Effectivement, tout était allumé. Hein, et ben, je me suis dit, quand même, j'avais apporté mes disques. Je savais me servir quand même un peu du matériel, mais vraiment de manière rudimentaire. Et là, j'ai fait mon émission. Puis après mon émission, j'ai éteint les lumières, puis j'ai rapporté les clés au gars, au voisin.
Merci d'être passé.
Ah oui, la radio associative, c'était extraordinaire. Quoi. Il y avait des expériences. Ah ouais, mais heureusement qu'elles existent, ces radios. Heureusement. Dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a des radios que j'ai quasiment toutes visitées. Radio Club à Wallers, quoi. Radio Club à Wallers, où vous rentrez dans le pavillon, la radio, c'est dans le couloir, quoi. Mais chapeau, quoi. Chapeau, parce qu'il y a des passionnés. Il y avait Radio Horizon, aussi avec ce couple de personnes âgées, qui faisaient quasiment tout. Avec quasiment l'antenne, maîtrisait quasiment toute l'antenne. Et c'était extraordinaire. Il passait beaucoup de disques pour les personnes plutôt les seniors. Quoique, des fois, il y avait de la musique plus moderne. À certaines heures, c'était pour les seniors. Et je me rappelle les émissions. Alors, elle faisait sa cuisine pendant que lui parlait dans le micro.
Dans les bruits de casserole.
Bon, Claudine, on n'écoute pas maintenant. Si tu nous mets un petit verre Chopin. D'accord. Et là, on entendait sortir le disque de la pochette. Puis on entendait qui en vinyle. C'était extraordinaire. Mais heureusement qu'elles existent, ces radios amateurs, parce qu'elles ont permis de découvrir beaucoup, beaucoup d'animateurs radio qui aujourd'hui s'avissent, et des gens très connus, hein, des gens de Arthur à Coé, en passant par Stéphane Guillon et puis bien d'autres. Donc ça a permis de révéler beaucoup de personnes qui, aujourd'hui, font de la radio ou de la télé, et c'est un bon tremplin. Ce qui est extraordinaire dans la radio, c'est que vous vous adressez à des personnes avec qui vous êtes quasiment le seul lien. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, d'abord, vous écoutent parce qu'elles vous aiment bien, elles aiment bien votre système d'animation ou l'information que vous lui fournissez. En plus, c'est des informations locales. Mais il y a des personnes, et beaucoup de personnes, qui vivent d'une manière un peu solitaire chez elles. Et c'est ces mêmes personnes qui, des fois, appelaient le soir, très tard le soir, en disant « Ah, oh, je suis content que vous soyez là, j'ai envie de parler un peu. » On ne pouvait pas, quoi. C'est pas notre métier, mais c'est un peu SOS détresse, quoi. Et savoir que... Puis même en dehors de ça, vous rentrez chez les gens, c'est de...
Dans l'intimité,
en fait. Oui, dans l'intimité, vous arrivez le matin à 6h, 7h, enfin, on ouvre l'antenne à 6h, et là, vous ne savez pas où vous tombez, quoi. Il y a des gens qui sont séparés la veille, d'autres qui sont connus la veille, D'autres qui font peut-être des bêtises quand pendant l'émission de radio, d'autres qui sont en train de manger, d'autres qui sont dans la voiture, d'autres qui sont au boulot, d'autres qui ne se parlent plus pendant depuis des mois, ou qui... C'est extraordinaire quand on rentre chez les gens et il y a une proximité avec les auditeurs qu'on retrouve au moment des jeux ou au moment des interviews ou des directs antennes. C'est quelque chose d'exceptionnel, la radio, quoi. Plus fort que la télévision. Comme tu dis, expérience en télé, c'est pas pareil. Là, en radio, je trouve qu'il y a un contact vraiment très très proche, quoi.
Et justement, j'allais vous demander, qu'est-ce que l'arrivée de la radio a changé dans le quotidien des Français, notamment ?
Vous parliez de musique tout à l'heure, mais je crois que c'est beaucoup de musique. Beaucoup de musique, même s'il y avait sur Europe 1, RTL ou France Inter des hit parades, etc., dans les années 60, 70. Ce qui était vraiment important, par exemple, dans la radio, c'était l'arrivée du transistor. Le poste transistor, c'était une révolution. Parce qu'avant, on écoutait la radio, il y avait un poste, hein, ou dans ma chambre, ou dans la cuisine, chez des parents. Et puis, le poste, il ne bougeait pas de place, quoi. Et le transistor est arrivé, la radio sans fil. Et là, c'est génial. Le transistor, moi, j'emmenais partout. Et il ne nous quittait plus, quoi. On n'emmenait pas à l'école, parce qu'à l'époque, c'était un peu plus sévère. Mais je crois que ce serait maintenant, j'avais un petit transistor gros comme ça. Je l'emmenais dans ma salle de bain, dans ma chambre. Avec les copains, quand on jouait aux billes ou je ne sais quoi, on mettait le transistor, il y avait la radio, quoi. La radio ne nous quittait plus. Et donc, là, il y a eu un apport d'informations énorme, avec des directs qui se faisaient d'un peu partout. Il y a eu des directs extraordinaires. Bien sûr, le premier pas, l'homme sur la Lune, qui était télévision et radio. Mais il y avait des émissions, moi qui aime bien le sport, il y avait le Tour de France, il y avait les arrivées en direct du Tour de France, quoi. Oh, c'était extraordinaire. Les matchs de football, les matchs de rugby. Avec mon père, je me rappelle, on était là devant le transistor dans le jardin en train de regarder le match de rugby où on était toujours en désaccord, mais c'est des grands moments. Là, on a la radio avec le transistor, c'est vraiment immiscé dans tous les endroits de la maison, et même pas que de la maison, quoi, de notre vie, quoi. Et puis l'autoradio. L'autoradio, moi j'ai connu l'époque où l'autoradio n'existait pas. C'est-à-dire que mon père avait bricolé, il avait un poste transistor que j'ai d'ailleurs là-haut. Un poste de marque Réla, et rouge et blanc, rouge et gris. Et il avait fabriqué une plaque qu'il mettait sous le tableau de bord avec des tendeurs. Vous savez, des tendeurs qu'on met là sur le porte-bagages du vélo. Et là, il attachait le transistor avec ses tendeurs. Il mettait une antenne qui traversait la voiture pour aller sur le toit. Et ça marchait jamais, quoi. Ça marchait, mais c'était... Bonjour, je suis un jeune. Mais très vite, il y avait bien sûr les autoradios. Et là, l'autoradio, c'était... C'est... Ouais, parce que là, la radio ne quittait plus, quoi. Et puis après, il y a eu le matériel portable. Hein, les donc, on pouvait écouter la radio en marchant dans la rue, on pouvait écouter la radio... Alors que Internet n'était pas là, il y a eu les années 80, 90 et jusqu'à, je dirais, 2005-2006, qui était fantastique, quoi, parce que là, c'était la radio partout. Alors maintenant, il y a Internet. Internet qui est un concurrent, c'est certain, mais la radio existera toujours parce que il y a ce contact extraordinaire, quoi. C'est...
Vous pensez que la radio a encore de beaux jours devant elle ?
Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Alors, peut-être pas au niveau national spécialement, parce que les gens se tournent de plus en plus vers la télévision et puis les informations via le web, mais les radios par le web ont une place vachement importante, quoi. Même moi, j'ai mon téléphone, et je reçois tous les jours, je suis abonné à La Voix du Nord, je reçois mon édition La Voix du Nord, et on a tout, quoi. J'ai des alertes aussi bien en sport qu'en faits divers, qu'en politique, qu'en musique. Ça a pris une place très importante. Par contre, ce qu'on n'arrive pas à faire au niveau national dans tous les réseaux, les Insta, les Facebook, les Snap et les compagnies TikTok, ce qu'on n'arrive pas à faire, c'est le local. Et pour moi, la radio locale va à nouveau avoir son importance en appuyant vraiment sur le local. Alors vous êtes complètement local. Mmh. C'est votre chance, quoi. Il y a des journaux nationaux, mais vous êtes complètement local, quoi. La preuve, vous êtes chez moi aujourd'hui, là, vous êtes déplacé, vous êtes rue de Gand, vous bougez, vous allez à la rencontre des gens. Moi, je vous parle de radio, c'est ma passion. Mais demain, vous allez voir le pêcheur à la ligne ou le collectionneur de fer à repasser.
Belle définition du métier.
Oui, et c'est ce qui intéresse les gens. Donc, et puis les radios sont tellement pessimistes, quoi. Tellement pessimistes. Je me rappelle une expérience qui avait été tentée par France Bleu Isère, hein, Radio France Isère. Ils avaient tenté à 8h30 du matin de mettre un journal des bonnes nouvelles. Et qui durait 6-7 minutes, comme un journal radio. Hein. Et pendant 6-7 minutes, c'était ce qui allait bien. Et c'était génial, quoi. C'est le début d'Internet. J'écoutais, c'est difficile, mais on captait quand même sur Internet, même s'il y avait des coupures. Mais ils nous parlaient des quartiers, de ce qui se faisait dans les quartiers, comme ça se fait encore aujourd'hui. Il y a des gens qui se bougent le derrière aujourd'hui, qui font des choses bien. Et ça, au niveau national, y a une espèce de lutte entre eux pour être le plus. Avoir l'information. Maintenant, ce sont des lecteurs de AFP, quoi. C'est triste, quoi. Et donc, moi je crois à la radio, mais à la radio locale, plus qu'à la radio nationale.
Et justement, la radio locale, ce sera le sujet d'un autre épisode. On se retrouvera demain pour en parler. Merci beaucoup, Patrice, et à très vite.
À très bientôt, j'espère.